Europe Midi, Rémi Bostzaron.
Bonjour, bienvenue, il est midi et demi.
Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est assez excités à l'idée de le faire, pouvoir aider à l'effort national pour essayer de sortir de cette situation, donc on est vraiment contents.
La vaccination en pharmacie, ça commence aujourd'hui. Qui peut en profiter? Avec quel vaccin? On fera le point avec Anne Le Gall et nous serons dans une pharmacie en région parisienne pour voir si les clients répondent à l'appel. La région parisienne, toujours pas reconfinée, contrairement à l'Italie. Les écoles, les restaurants, les magasins, les musées referment leurs portes aujourd'hui dans le pays le plus endeuillé d'Europe. Quel avenir pour les travailleurs au chômage partiel? Un an après le début du premier confinement en France, ils sont plus de 2 millions et beaucoup sont tentés de changer de voie, ce qui inquiète leur patron. Le début du procès retentissant de Jean-Noël Guérini à Marseille, c'était ce matin l'ancien président du Conseil Général qui comparaît dans un vaste dossier de corruption présumée. Cette fois, c'est fini pour Emmanuel Faber. Chez Danone, l'ex-PDG a été débarqué hier soir. Avec quelles conséquences pour le groupe? La réponse avec Emmanuel Dutheil. Les malheurs du Paris Saint-Germain, une défaite, 2 buts encaissés, 2 joueurs cambriolés hier soir. Tout cela va peser lourdement dans les esprits parisiens. Et puis le triomphe de Beyoncé hier aux Grammy Awards, elle compte désormais 28 trophées au total, c'est un record. Invité d'Europe Midi, Antoine Mariotti, journaliste à France 24, auteur de La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien, aux éditions Talendier, enquête sur 10 ans de choix hasardeux des puissances occidentales face à Bachar el-Assad, toujours au pouvoir aujourd'hui.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La vaccination en pharmacie, ça commence donc aujourd'hui pour les plus de 50 ans qui souffrent de comorbidité et pour les plus de 75 ans. Alors comment ça se passe concrètement? Allons voir dans une pharmacie de Boulogne-Billancourt où se trouve notre reporter Marine Protet. Marine, est-ce que les clients sont déjà au rendez-vous?
Oui, les vaccinations s'enchaînent depuis ce matin au premier étage de la pharmacie à l'abri des regards, dans une toute petite pièce qui sert d'habitude de lieu de stockage de produits pour bébés. C'est donc entre les biberons et les tétines que Maria, 73 ans, vient de se faire injecter une première dose d'AstraZeneca.
Soulagée, parce que j'ai des petits-enfants, j'ai une fille qui est enceinte. Bon, mon mari est déjà vacciné, voilà, donc toute la famille, le couple en tout cas, sera vacciné. Ça fait longtemps que je cherche à me faire vacciner, sauf que j'avais 73 ans. À l'époque, c'était priorité aux gens de plus de 75 ans.
Un mois d'attente parce que son médecin traitant ne pratique pas la vaccination contre le Covid-19. Donc forcément, c'était plus simple de venir en pharmacie à seulement quelques mètres de chez elle. Et son pharmacien, justement, Clément, est très fier de pouvoir vacciner ses habitués.
Ça fait plusieurs années qu'on vaccine pour la grippe, donc c'est quelque chose auquel on est habitué. Maintenant, c'est vrai que pour la vaccination contre la Covid-19, c'est nouveau et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est assez excité à l'idée de le faire. Pouvoir aider à l'effort national pour essayer de sortir de cette situation, donc on est vraiment content.
En tout, 10 personnes vont recevoir une dose d'ici ce soir. La moitié d'entre elles n'était pas prévue. Elles ont été rappelées en urgence. Des créneaux se sont libérés après que des patients ont annulé par peur du vaccin AstraZeneca et de ses effets secondaires.
Merci Marine Protet à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Anne Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste santé d'Europe 1, faisons le point avec vous. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans cette nouvelle étape de la campagne vaccinale? Qu'est-ce que ça représente, cette ouverture de la vaccination dans les pharmacies?
Alors, c'est un nouveau lieu de vaccination facile d'accès. Les pharmaciens ont l'habitude de cette logistique avec la vaccination anti-grippe, donc c'est un plus. Mais si on entre dans le détail des chiffres, ça démarre lentement. 18 400 pharmacies se sont portées volontaires pour vacciner cette semaine, avec seulement 2 flacons par officine, donc de quoi protéger 20 patients par pharmacie. Cela fera 360 000 Français vaccinés à la fin de la semaine. La plupart de ces officines ne recevront ces vaccins qu'en milieu de semaine et vaccineront donc plutôt jeudi ou vendredi. Seules 6 000 pharmacies situées dans les départements les plus touchés par l'épidémie ont déjà reçu un premier flacon, on vient de l'entendre, pour démarrer ce week-end et aujourd'hui. Et ensuite, il y aura une pause la semaine prochaine puisque les pharmaciens ne devraient pas recevoir de nouvelles doses d'AstraZeneca avant le 8 avril, faute de stock.
Alors justement, ça peut être un peu difficile à suivre. On entend ce matin que les commandes d'AstraZeneca auront plus de retard que prévu. Est-ce qu'il y a bien assez de doses pour continuer à vacciner, à continuer à ouvrir la vaccination à un nouveau public?
Alors effectivement, AstraZeneca ne livrera qu'un tiers des vaccins promis d'ici juillet, donc 100 millions de doses au lieu de 300 millions pour l'Europe. Mais Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, l'assure, le calendrier vaccinal français ne sera pas modifié car ce déficit sera compensé par d'autres vaccins.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, pour ces explications. On apprend ce matin que les pompiers de Marseille suspendent justement l'utilisation de ce vaccin AstraZeneca pour pour leur personnel, décision prise après un cas d'effet indésirable. Pendant ce temps, en Italie, ce n'est pas un jour sans fin, mais une année sans fin. Un an après les premiers confinements, ça recommence aujourd'hui pour les trois quarts du pays. Blandine Hugonnet, vous êtes à Rome pour Europe 1. Il y a donc comme un air de déjà-vu dans la capitale et un peu de résignation aussi chez les Italiens.
Oui, une ambiance un peu morose aujourd'hui pour les Romains dans la capitale reconfinée.
On sort courir tous les matins et aujourd'hui il n'y a personne.
Des rues désertes, des rideaux baissés pour la majorité des boutiques et des commerces, coiffeurs, bijoutiers, c'est le silence autour des écoles bouclées et les restaurants aussi sont fermés. Il ne reste plus que la vente à emporter. Devant un bar du centre de Rome, Antonella boit un cappuccino dans un gobelet en carton. Mais même pour un café depuis ce matin, interdit de sortir sans justifier son déplacement. Me rappelle cette romaine.
J'ai mon attestation dans mon sac et ma carte d'identité pour faire aussi des courses et promener mon chien. C'est bien triste, mais si ça nous permet de nous en sortir définitivement, je l'accepte.
Un peu plus loin, Maria Lisa sur son vélo s'arrête. Elle prend une photo d'une place romaine étrangement vide, mais à force de reconfinement depuis un an, elle s'y est tristement faite.
Au premier confinement, j'avais eu la sensation lourde d'une ville morte. Maintenant, on s'y est habitué. On a intégré ces fermetures à notre quotidien. Maintenant, c'est ça la normalité.
Plusieurs voitures de carabiniers tournent dans les rues de Rome pour ces trois semaines de reconfinement total jusqu'à Pâques. Les contrôles sont renforcés depuis ce matin dans la capitale.
Merci Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Et comme d'habitude, chacun avance à son rythme en Europe, puisqu'aujourd'hui, du côté du Portugal, l'heure est à l'allègement des restrictions, réouverture des crèches et des écoles primaires. En France, malgré une situation sanitaire tendue en Île-de-France, situation qualifiée d'inquiétante même par le Premier ministre Jean Castex hier soir, l'heure n'est pas au reconfinement, mais à partir d'aujourd'hui, 6 personnes seront évacuées par jour par voie aérienne vers des régions moins touchées que l'Île-de-France. Sur le fond de la crise économique, un an après le début du premier confinement dans l'Hexagone, ce sont plus de 2 millions de salariés qui sont toujours en chômage partiel. Certains n'ont jamais pu reprendre leur activité, particulièrement dans le tourisme, l'événementiel ou la restauration. Et la crainte qu'expriment certains patrons et Lise Dangean, c'est de perdre toute une partie de leur main-d'œuvre.
Oui, forte inquiétude notamment dans la restauration car c'est le secteur qui a le plus recours au chômage partiel et pour le chef Alain Fontaine, dont 90% des salariés sont à l'arrêt, c'est une certitude, il y aura une grosse déperdition au moment de la reprise.
Je sais qu'il y en a que je ne reverrai pas parce que leur vie a changé. Au bout d'un an de réflexion, ils se sont dit « mais attends, je peux avoir mes soirées, je peux avoir mes week-ends ». Ils ont peut-être pris d'autres pistes. Et ça, c'est le problème de toute la restauration française.
Certains ont déjà changé de voie, d'autres y songent, mais ce qui inquiète le plus les patrons, ce sont les décrocheurs, ceux dont on n'a plus de nouvelles. Dans le groupe Galice, qui fabrique des stands pour les foires et salons, ça représente un salarié sur quatre. Et son PDG, Fabrice Laborde, avoue être un peu désemparé.
On est une entreprise qui a connu la croissance et nous, on a géré le trop-plein de travail. Toute notre vie. Et là, on s'est retrouvé quand même à gérer psychologiquement l'absence de travail, l'absence d'activité et l'absence de se réunir. Je vous avoue qu'on a eu quelques faiblesses là-dessus.
Autre motif d'inquiétude pour la reprise, la perte en compétences, mais aussi en confiance en soi. Il faudra redémarrer la machine en amont, dit Fabrice Laborde, et réapprendre à travailler ensemble.
Merci Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
Dans un instant, on revient sur cette soirée noire du PSG, une défaite au Parc des Princes et deux joueurs cambriolés pendant le match. Le moral des Parisiens est sévèrement touché.
Europe Midi, Rémi Bossaron.
C'est donc une soirée douloureuse qu'a vécu le PSG hier. D'abord, ils ont perdu en championnat face à Nantes au Parc des Princes. Et puis pendant ce match, deux joueurs ont été cambriolés, Di Maria et Marquinhos. Et Julien Froment, on en sait un peu plus sur le scénario de ces cambriolages.
Effectivement, les faits se sont produits hier vers 21h, au moment du coup d'envoi du match. Tout d'abord, chez la famille d'André Di Maria, des malfrats se sont introduits dans le domicile de l'Argentin. Ils ont dérobé le contenu d'un coffre-fort situé à l'étage de l'appartement, alors que des membres de sa famille étaient présents au rez-de-chaussée. Dans le même temps, dans les Yvelines, le père de Marquinhos a lui aussi été victime d'un cambriolage. Selon les informations du service police-justice d'Europe 1, deux cambrioleurs, visages partiellement dissimulés, sont entrés dans le domicile sans effraction, ont légèrement molesté le père, puis l'ont emmené avec deux autres membres de la famille dans une pièce. Des objets de valeur, de l'argent liquide ont été dérobés. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles.
Et Julien, cette soirée cauchemardesque, elle pourrait vraiment marquer la saison du PSG.
Oui, un impact psychologique est à craindre. André Di Maria a d'ailleurs été remplacé à l'heure de jeu pour rejoindre au plus vite sa famille. Di Maria, victime déjà en 2015 d'une tentative de cambriolage lorsqu'il jouait à Manchester United. Cela avait d'ailleurs précipité son départ. Et puis, sur le terrain, vous l'avez dit, Paris a perdu 2-1 contre le 19e de Ligue 1, le FC Nantes, et se retrouve désormais à 8 journées de la fin, à 3 points du leader lillois.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. C'est un procès retentissant qui s'ouvre ce matin à Marseille, celui de Jean-Noël Guérini, l'ancien patron tout-puissant du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, impliqué dans un vaste dossier de corruption présumée. 12 personnes sont mises en cause au total, mais évidemment, Stéphane Frangy, ce matin, tous les yeux étaient braqués sur lui.
Oui, Jean-Noël Guérini, 70 ans, l'ex-président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, celui qui est toujours sénateur, réélu en septembre dernier, est arrivé ce matin d'un pas tranquille et sans un mot, entouré de ses avocats. Ses premières déclarations sont attendues dans la journée. Ce sera simplement pour se présenter dans ce dossier tentaculaire de corruption présumée. 58 hommes, 40 000 pages d'instructions mises en examen initialement pour association de malfaiteurs, trafic d'influence et complicité de destruction de preuves. Jean-Noël Guérini a depuis obtenu 3 non-lieux et n'est plus poursuivi que pour prise illégale d'intérêt autour du rachat d'un terrain qui servira à agrandir une décharge dont le marché public sera attribué à son frère Alexandre. Délit pour lequel Jean-Noël Guérini encourt tout de même 5 années d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité.
Merci Stéphane Frangy en direct de Marseille. Il était en sursis, cette fois c'est fini pour Emmanuel Faber chez Danone. L'ex-PDG a été débarqué, décision du conseil d'administration hier soir. Il sera remplacé par Gilles Schnepp qui vient du groupe Le Grand. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour.
Alors Emmanuel Faber, c'était un patron atypique dans le CAC 40. Qu'est-ce que son départ va changer pour Danone ?
Eh bien, chez Danone, on le promet, le modèle unique d'entreprise à mission sera respecté. C'est-à-dire que les engagements sociaux et environnementaux doivent être au moins aussi importants que la performance économique. Alors pourquoi écarter Emmanuel Faber qui incarnait cette ambition ? La réponse est très simple en interne. Il avait une vision, mais ce n'était pas un bon manager. Il paie notamment les départs à l'automne de cadres de haut niveau. C'est une réponse aussi au fonds activiste qui demandait son éviction. Il ne voulait pas être seulement président non exécutif. Il ne lâchait rien au quotidien. Les problèmes de gouvernance étaient trop importants, explique un proche de la direction. Et c'est pour cela que le conseil d'administration mise sur Gilles Schnepp, l'ancien patron de Legrand, le numéro 1 mondial des interrupteurs, ne connaît pas grand-chose à Danone, mais c'est une référence mondiale en matière de gouvernance, dit-on en interne. Charge à lui de trouver rapidement un numéro 2 de classe mondiale selon le cahier des charges interne. Et même si officiellement ce numéro 2 devra respecter l'esprit de Danone, il faudra qu'il mette sur pied un plan pour rendre l'entreprise aussi rentable que ses concurrentes, ce qui pourrait annoncer des lendemains difficiles.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe. La voix de Beyoncé dans Europe Midi. Beyoncé plus que jamais Queen Bee après la soirée des Grammy Awards. Hier soir, Beyoncé encore une fois récompensée. Ça fait 28 Grammy Awards au total pour elle, record historique. Angèle Châtelier, plus largement, cette soirée a été historique pour les femmes.
Oui, Beyoncé a remporté 2 Grammy Awards cette nuit, celui de la meilleure vidéo musicale et celui de la meilleure performance. Mais Taylor Swift a aussi battu un record, celui de devenir la première artiste femme à recevoir le prix de l'album de l'année 3 fois d'affilée. Cette nuit, pour Folklore, son 8e album, 1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis. Ce record, Taylor Swift passe derrière Frank Sinatra ou Stevie Wonder. Et puis il y a Billie Eilish, 19 ans, et déjà 7 Grammy Awards, dont celui de l'enregistrement de l'année pour la 2e année consécutive avec son titre « Everything I Wanted ». Alors les Grammy Awards, c'est en tout une quarantaine de catégories. À noter aussi le succès de Megan Thee Stallion, première rappeuse à devenir la révélation de l'année depuis plus de 20 ans.
Merci Angèle Châtelier et la météo en musique également d'Anissa Adalit.
Avec plaisir.
De la pluie et de la neige au programme cet après-midi.
Il va nous falloir de la musique pour nous monter le moral parce que c'est à l'est que le temps est le plus agité cet après-midi. Des Alpes jusqu'à la Franche-Comté, on attend de la neige jusqu'à 50 cm de neige par exemple sur les Vosges au-dessus de 1000 mètres d'altitude. C'est beaucoup pour la saison. Sur les autres régions du Grand Est, le ciel est très couvert avec des averses. De l'Auvergne à la Franche-Comté en passant par la Bourgogne, il pleut cet après-midi. Sur toute la façade ouest, l'ouest de la Normandie au Pays Basque, c'est le retour des éclairs, s'il y a quand même des bonnes nouvelles. Et au bord de la Méditerranée, le vent souffle fort, mais grâce au vent, il n'y a pas de nuages et il fait beau. Mais attention, la tramontane souffle jusqu'à 90 km/h. Les températures, elles sont fraîches cet après-midi. 7 degrés au Puy-en-Velay, 9 à Metz, 10 à Clermont-Ferrand, 13 à Paris et Rennes, 14 à Bordeaux et 18 la maximale pour Nice.
Merci Anissa Adadi.
À midi, Rémi Bossaro.
Dans un instant, je reçois Antoine Mariotti, journaliste à France 24, auteur de La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien. Comment Bachar el-Assad peut-il être encore au pouvoir dans un pays ruiné ? Il livre une enquête inédite auprès des acteurs du dossier, diplomates, chefs d'État et également des espions. A tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Rémi Bossaron.
Bonjour Antoine Mariotti.
Bonjour Rémi.
Journaliste à France 24, vous êtes l'auteur de La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien aux éditions Talendier. Retour sur 10 ans d'atermoiement des puissances occidentales sur le dossier syrien, puisqu'on célèbre aujourd'hui en quelque sorte les 10 ans de la révolution syrienne. C'était en mars 2011. 10 ans plus tard, on fait ce constat aujourd'hui. Non seulement Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, mais il dirige un pays totalement ruiné. Des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés de déplacés, une population qui vit dans la peur et dans l'insécurité alimentaire. C'est ce constat, Antoine Mariotti, qui fait la honte de l'Occident aujourd'hui.
Oui, ce conflit, c'est évidemment d'abord et avant tout la honte de Bachar el-Assad. C'est lui qui a réprimé son peuple, qui a réprimé des manifestations pacifiques il y a 10 ans. Et ça a commencé il y a 10 ans, jour pour jour, en effet, dans le sud du pays. Mais c'est aussi, à bien des égards, la honte de l'Occident, parce qu'on ne l'a pas empêché, déjà. Et parfois, on a encouragé, finalement, cette opposition, notamment quand elle s'est armée, à continuer le combat, à continuer, parce que, justement, par nos déclarations, on le faisait, mais aussi en leur livrant des armes, par exemple. Sauf qu'on n'a jamais été au bout de ce raisonnement. Si on décide d'aller dans ce raisonnement-là, on peut l'entendre ou pas l'entendre, c'est un débat à avoir, mais autant y aller réellement. Et beaucoup de ces Syriens que j'ai interrogés m'ont dit: on nous a soutenus comme la corde soutient le pendu, c'est-à-dire qu'on nous a donné juste de quoi garder la tête en dehors de l'eau, nous battre un peu, continuer le combat, mais jamais de quoi inverser le rapport de force. Et tant que ce rapport de force ne pouvait pas être inversé ou en tout cas chamboulé, eh bien Bachar el-Assad n'avait aucune raison d'aller négocier sérieusement lorsqu'il y a eu des négociations internationales.
Alors vous avez énormément d'acteurs dans ce livre, qu'on retrouve dans ce livre, des opposants syriens effectivement, des diplomates, des militaires, des dirigeants politiques, des espions également. Et le constat que vous faites clairement, de bout en bout, c'est qu'il y a un décalage permanent entre les informations qui remontent du terrain et les décisions politiques qui sont prises. La première erreur fondamentale, selon vous, en 2011, qui est faite par plusieurs dirigeants, dont Barack Obama, c'est de penser que parce que Ben Ali, Moubarak viennent de tomber dans un printemps arabe, puisqu'il y a un printemps arabe en Syrie, Bachar va tomber forcément. Ça, c'est mal connaître ou méconnaître totalement le système syrien, selon vous.
Oui, tout à fait. En fait, il faut se rappeler qu'on a cette espèce de dynamique des printemps arabes. Ben Ali vient donc de tomber en Tunisie, Moubarak en Égypte. Mais il faut se rappeler que nous, Français, et tout le monde d'ailleurs, ce ne sont pas que les Français, on a absolument pas vu ça venir. Il était dur de le voir venir, faut reconnaître, faut pas si facile de critiquer après coup. Mais du coup, comme on a loupé ça, on a absolument pas voulu louper le coche côté syrien. Et on a cru à Paris, Londres, Berlin, Washington, que parce qu'il y avait cette dynamique, il allait tomber automatiquement Bachar el-Assad, comme d'autres ailleurs. Sauf que sur le terrain, et je m'appuie là-dessus sur de nombreux entretiens que j'ai menés, mais aussi sur des documents que j'ai lus, et bien sur le terrain, que ce soit des diplomates ou des espions, qui donc n'ont pas les mêmes capteurs, et bien ça se recoupe et aucun dit le régime va tomber dans quelques semaines ou dans quelques mois, ce que disent pourtant les ministres et les chefs d'État dans les pays occidentaux et aussi dans le Golfe. Et à partir du moment, comme me le disait l'ancien envoyé spécial de l'ONU et la Ligue arabe, Lardar Brahimi, à partir du moment où vous construisez une politique sur une réalité qui n'existe pas à ce moment-là, forcément vous êtes mal barré. On a sous-estimé la volonté de soutien de la Russie et de l'Iran, qui évidemment, on ne pouvait pas savoir que la Russie allait intervenir aussi fort militairement en 2015, mais on voyait déjà qu'elle n'allait pas lâcher, et notamment parce qu'elle avait très mal digéré d'ailleurs, pardonnez-moi, l'épisode libyen. Et donc, j'ai aussi interrogé des proches, à ce moment-là, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, de Barack Obama. J'aurais dit, mais comment ça se fait, tous ces éléments, on vous dit qu'il ne va pas tomber, vous dites qu'il va tomber. Et on m'a dit, mais vous savez, en le disant, on espérait que ça allait le faire tomber. C'était un petit peu naïf, évidemment, mais pour autant, ils ont aussi, à Paris par exemple, envoyé des consignes à toutes les ambassades françaises à travers le monde en leur disant « Faites partager le message, Bachar est à deux doigts de tomber, il va tomber ». On a bien vu que ce n'était pas vrai, que ça ne se basait pas sur quelque chose d'extrêmement concret, même si c'était difficile de faire des prédictions à 10 ans, évidemment.
Vous parliez des ambassades, justement, c'est une des premières décisions qui est prise symboliquement par les États-Unis et par la France de fermer leur ambassade très vite en 2011. Ça a des conséquences, vous le dites, sur place, pour notamment ceux qui les espions, DGSE qui était présente sur place, qui avait besoin de cette ambassade, de cette présence. Je voudrais revenir avec vous sur un épisode que vous racontez, que moi j'avais jamais lu, et qui montre le travail de terrain et comment se joue aussi un conflit à des détails. Vous parlez de l'ambassadeur américain qui voulait assister à l'une des premières manifestations dans le pays, en dehors de Damas, qui sera en voiture avec son équipe là-bas, qui oublie de prendre le plan de la ville, qui du coup se perd sur place, et ça a des conséquences énormes après.
Oui, tout à fait. On est à l'été 2011, donc ça a commencé depuis quelques mois déjà, depuis 4 mois environ, ces manifestations un peu dans tout le pays. Et à Hama, c'est un endroit très symbolique parce que le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, en 1982, avait complètement réprimé une révolte à ce moment-là, notamment menée par des frères musulmans, et on parle de 20 à 30 000 morts. Et on n'avait pas les réseaux sociaux, on a su ça plus tard, mais c'est extrêmement symbolique du coup, Hama. Et donc, avec d'ailleurs l'ambassadeur de France, il décide d'aller voir ce qui se passe cette fois-ci à Hama le vendredi, parce que les manifestations étaient essentiellement tous les vendredis. Et en arrivant sur place, son chauffeur se tourne vers lui et dit « Bon, alors monsieur l'ambassadeur, vous avez le plan, on va par où maintenant ?» Il dit « Mais c'est pas mon boulot de prendre un plan, vous plaisantez. » Donc il se tourne vers son garde du corps, dit « Carlo, t'as pris le plan ?»« Non, j'ai pas de plan. » L'attaché de défense, pareil. Bon, du coup, heureusement, l'ambassadeur parlait arabe, donc il sort, il demande le chemin, ils arrivent à trouver un hôtel. Sauf que le lendemain matin, quand ils arrivent, ce que voulait faire Robert Ford, c'était assister à cette manifestation, mais sans y participer. C'est-à-dire qu'il avait essayé, il avait trouvé par leur contact, trouvé sur place, un appartement pour voir finalement avec de la hauteur, voir ce qui se passait et témoigner, mais sans qu'on sache qu'il soit là. Et donc, il commence à faire des cercles concentriques autour du lieu de manifestation pour s'en rapprocher, voir s'il y a du monde ou pas. Et à un moment donné, sans s'en rendre compte, il se retrouve au milieu de la manifestation, avant même qu'elle devait commencer. Mais il y avait tellement de monde que c'était déjà noir de monde. Et il se retrouve complètement encouragé, félicité par les manifestants qui assaillent la voiture. Et il n'arrive plus à en sortir. Il se dit on est foutu, il faut absolument qu'on sorte diplomatiquement. Je n'ai rien à faire ici, il faut que je m'en aille. Et à peine il sort de Hama, il a mis du temps à sortir de cette manifestation. Tous les médias du monde entier l'ont appelé en disant « Mais monsieur Ford, alors vous soutenez les manifestants, les États-Unis soutiennent les manifestants, vous êtes au cœur, c'est un signal. » Il dit « Non, pas du tout, c'est une erreur. » Et évidemment, ça n'a pas été pris comme ça. Et ça a été compliqué derrière avec les autorités syriennes.
Récupéré par le pouvoir syrien, évidemment. Ça aboutit à des assauts sur l'ambassade, fermeture de l'ambassade américaine.
C'est un complot, pseudo-complot occidental qui n'existe pas.
Évidemment, côté américain, ce qu'on retient très rapidement, c'est la fameuse ligne rouge de Barack Obama fixée en 2012. En 2013, des armes chimiques sont utilisées par le régime de Bachar. C'est une rouge qui a été fixée par Barack Obama qui décide finalement lui-même de ne pas respecter son engagement et de ne pas attaquer à ce moment-là. C'est un changement pour les États-Unis, même la place des États-Unis dans le monde change à ce moment-là, c'est ce que vous expliquez.
Exactement, la crédibilité de Barack Obama, mais aussi des États-Unis, s'effondre à ce moment-là. À partir du moment où il y a une ligne rouge tracée aussi fermement et qu'elle n'est pas respectée, alors qu'on était à quelques heures des frappes, tout était prêt côté français et américain. Je le raconte en détail dans le livre. Le régime syrien et ses alliés, notamment la Russie, qui n'ont pas encore conquis la Crimée, il faut le garder en tête, comprennent qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas de conséquences puisque les États-Unis sont décidés à ne pas intervenir. Donc évidemment, c'est extrêmement problématique et pour l'opposition aussi. Du coup, elle commence à s'effriter parce qu'elle aussi comprend qu'elle ne peut pas compter sur ce soutien des Occidentaux.
Et justement, vous parliez de la Russie, c'est l'acteur qui est entré en dernier finalement dans ce jeu, mais qui semble maîtriser le jeu syrien aujourd'hui. Vous expliquez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a l'Iran et la Russie finalement. Bachar est comme un pantin avec deux ficelles, l'une tenue par la Russie, l'autre par l'Iran. Et en fait, c'est le pantin qui mène le jeu actuellement en Syrie.
Oui, parce que finalement, ces deux acteurs importants, l'Iran et la Russie, qui ont sauvé Bachar el-Assad, ils ne peuvent plus partir aujourd'hui après un tel investissement politique, diplomatique, militaire, économique aussi évidemment, alors qu'ils ont tous les deux des économies fragiles, et ils ne peuvent plus partir en disant bon, c'est bon, c'est réglé, et pourquoi on a fait ça dans ce cas-là? Donc ils sont un petit peu tenus. Et Bachar, et un diplomate français me disait, vous savez, c'est une marionnette avec deux ficelles, un iranien et un russe, et quand il sent que le soutien iranien se relâche un petit peu, eh bien il se précipite côté russe, qui en profite pour donner plus de soutien, donc gagner en influence en Syrie, et donc potentiellement des marchés, etc., potentiels, et puis vice-versa, quand ça se relâche côté russe, il se précipite côté iranien, parce que Russes et Iraniens ont un combat commun, mais ils ont aussi des différences, et donc ils n'ont aucune envie de laisser toute la place à l'autre.
Mais merci beaucoup Antoine Mariotti, on va voir combien de temps ça peut durer pour Bachar el-Assad avec cette seule stratégie, vous le dites, pour lui, pas de projet pour son pays, c'est de rester au pouvoir, et ça fonctionne depuis 10 ans. Antoine Mariotti, journaliste à France 24, auteur donc de La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, le journal de 13h avec Christophe Lamarre et bien sûr, La France bouge.